Chers frères et sœurs et chers amis, nous sommes à l'étude numéro 11. Et c'est cette étude qui va terminer cette série. Et le titre sera « Le grand sceau ». Chers frères et sœurs et chers amis, en effet, maintenant, il est donc temps, il est le temps pour certains d'entre vous de faire le grand sceau. Voyez-vous, une fois que nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ, purifiés par sa sainte parole, le Seigneur appose le sceau du Saint-Esprit sur nous. Et voici ce que l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens, au chapitre 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Je crois que ça vaut la peine de redire ce verset parce que c'est tout de même important. Il est donc dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est donc la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Et en lui, vous, nous avons cru, et vous et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, le sceau est un symbole de protection. Il signifie « ceci m'appartient, mets-le de côté, laisse-le moi, personne n'y touchera parce que je reviens pour le réclamer. » Le Seigneur n'appose pas son sceau sur ce qu'il ne veut pas racheter. Il ne nous préparerait pas une place dans sa demeure s'il ne savait pas que nous allions rentrer à la maison. Notez l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 2 à 3. Chers amis, nous restons scellés jusqu'à ce que Christ nous conduise à la maison pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 4. L'héritage est pour ceux qui, par la puissance de Dieu, sont gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. Donc, le sceau ne sera pas ôté tant que Dieu n'aura pas parfaitement achevé son ouvrage. L'apôtre Paul nous dit que nous, qui avons les prémices de l'Esprit-Saint, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption qui est de notre corps, qui concerne notre corps. Romains chapitre 8, verset 23. L'ouvrage est parfait lorsque résonnent les dernières trompettes, car la Bible nous dit « Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire ». 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 à 54. Selon 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, « Tant que vous acceptez ce que le sang de Christ a fait pour vous, aucune puissance sur terre ne peut briser le sceau de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Peut-être vous posez-vous la question de savoir si Dieu nous aime malgré nous? Oui, il nous aime absolument. Malgré nos manquements, il nous aime toujours. Il nous adopte, bien que nous soyons responsables de la mort de son Fils. Et il nous accueille de nouveau, même si nous avons chancelé ou sommes tombés. Certains s'inquiètent de savoir ce qu'il adviendra d'eux s'ils retombent toujours dans le même péché et si le Seigneur va encore leur pardonner. L'apôtre Pierre s'en est aussi inquiété auprès de son merveilleux Sauveur. Il a dit « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» C'est ce qu'il a demandé. « Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus-Christ lui dit « Moi, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois 7 fois. » Évangile de saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Donc, la réponse du Seigneur ne signifie pas que les chrétiens puissent vivre dans le péché sans se repentir et encore aller au ciel. Bien loin de là. Ceux qui abusent du pardon de Dieu n'ont en fait jamais fait l'expérience du véritable salut. Ce que Dieu offre va au-delà de l'assurance de la vie éternelle. Il nous fait don de la grâce éternelle. C'est cette grâce de Dieu capable de transformer et qui rend la rédemption possible et nous prépare à vivre une existence divine. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est écrit dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Donc, le livre de Tite, c'est contre la fin du Nouveau Testament. Le jour où vous vous trouverez devant la grâce salvatrice de Dieu, vous aurez soif de justice et de sainteté. Et grâce à l'œuvre parfaite accomplie au calvaire, Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour nous donner la force de vivre dans la sainteté. L'apôtre Paul nous dit que nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains, chapitre 8, verset 4. Ce que Dieu a déclaré au prophète Zacharie est toujours vrai. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie, chapitre 4, verset 6. La tentation devant laquelle vous vous trouvez actuellement vous semble peut-être comme une montagne prête à vous écraser. Cependant, par l'Esprit du Seigneur et par sa grâce merveilleuse, vous avez la capacité de détruire cette montagne pierre par pierre. La grâce de Dieu s'accompagne d'une grande puissance. Il est dit que les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce était sur eux. Actes chapitre 4, verset 33. Dans le livre des Actes, nous voyons ce que la puissance de Dieu a accompli chez les premiers chrétiens. Ils reçurent une puissance et devinrent des témoins, car il est dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Actes chapitre 1, verset 8. Donc leur attitude changea, bien entendu. Étienne en est l'exemple le plus saisissant. Lorsque le Saint-Esprit se posa sur Étienne pendant le procès, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 15. Je crois que lorsque l'onction de Dieu est sur quelqu'un, la présence du Saint-Esprit est manifeste pour tout l'entourage de cette personne. Son visage reflète la puissance et la joie divine, et on peut percevoir une autorité certaine dans le son de sa voix. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre et Jean dirent aux boiteux « Regarde-nous » Actes 3, verset 4. Ils savaient qu'en les regardant, l'infirme verrait que la puissance de Dieu était sur eux. Le Saint-Esprit leur donnait de l'assurance. Ça, c'est un fait. Il est dit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction spéciale. Actes chapitre 4, verset 13. Ils n'avaient plus de crainte, mais à la place, une assurance glorieuse pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Saint-Esprit changea leur relation. L'apôtre Pierre déclara qu'il était témoin de ce que Jésus-Christ avait fait, de même que le Saint-Esprit. Actes 5, verset 32. Nous voyons là que le Saint-Esprit est leur compagnon et leur aide. Le Saint-Esprit changea leur situation. Étienne avait commencé modestement dans l'Église, selon Actes chapitre 6, verset 5. Mais il finit en brillant évangéliste, Actes chapitre 6, verset 8 à 10. Le Saint-Esprit changea donc leur vision. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Actes chapitre 7, verset 55. La toute-puissance du Saint-Esprit est aujourd'hui à notre disposition, car nous avons aussi reçu la grâce infinie de Dieu. Le Saint-Esprit dans nos vies nous rappelle que Christ a versé son sang précieux et qu'il est mort et ressuscité et qu'il est monté pour s'asseoir à la droite de son Père. Chers amis, la communion et le repas du Seigneur est évidemment un devoir très important. Chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, nous sommes en communion avec le Seigneur. Lorsque nous la célébrons, c'est lui-même qui vient. Je désire partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré à travers cette expérience et par l'étude de sa sainte parole. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 16, la Bible nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? » Ce verset signifie que nous sommes en communion avec Dieu lorsque nous partageons son repas. Souvent, lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous ne sommes pas conscients que c'est avec le Seigneur lui-même que nous communions. Il ne s'agit pas seulement d'une pratique à cause de la tradition ou de ce que nos pères ou nos mères nous ont enseigné. C'est le souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il y a de cela plus de 2000 ans et au calvaire. Voyez-vous, en même temps, c'est aussi communier avec lui dans le présent. C'est pas seulement une question du passé. Il communie aujourd'hui avec vous, vous qui êtes ses fils et ses filles. En fait, lorsque nous célébrons la Sainte Cène, Jésus-Christ désire se joindre à nous et de partager le repas avec nous. Nous l'appelons repas du Seigneur parce qu'il s'agit de son repas et non du nôtre. La Sainte Cène est toujours un moment privilégié où la présence du Seigneur peut se révéler de façon très réelle à nos sens spirituels. L'avertissement de l'apôtre Paul dans les Saintes Écritures s'adresse clairement à nous. Il est dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement » sera coupable envers le corps et envers le sang du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. Pourquoi donc l'apôtre Paul éprouvait-il le besoin de dire cela à l'église de Corinthe? On se le demande. Quelles raisons ont bien pu pousser les Corinthiens à considérer la Sainte Cène comme une vaine cérémonie? L'apôtre Paul en énumère cinq. Premièrement, il y avait des divisions parmi eux. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. Nous continuons avec 1 Corinthiens, toujours le chapitre 11, et ça sera deuxièmement. Deuxièmement, il y avait aussi des sectes parmi eux. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. 1 Corinthiens 11, verset 19. Troisièmement, on y voyait de l'égoïsme, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, égoïstement, et l'un a faim, tandis que l'autre est même ivre. 1 Corinthiens 11, verset 21. Quatrièmement, il méprisait l'Église de Dieu. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? 1 Corinthiens 11, verset 22. Et cinquièmement, ils étaient devenus orgueilleux et dédaigneux les uns les autres. Et il écrit, « Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. » 1 Corinthiens 11, verset 22. En mettant en garde les Corinthiens contre le fait de célébrer indignement le repas du Seigneur, l'apôtre Paul parlait en fait des péchés que commettait leur Église. Certains de ces péchés étaient même commis à la table du Seigneur. L'apôtre Paul disait que de nombreux Corinthiens étaient affaiblis et malades, et que même certains étaient morts à cause de leur manque de discernement. C'est un fait négatif en lui-même. Mais de la même manière, si nous participons en toute dignité à la Sainte Cène, je pense que force et santé seront le lot de l'Église plutôt que faiblesse et maladie. L'apôtre Paul poursuit en disant ceci. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 31 et 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, Dieu n'aurait pas à le faire. Mais s'il nous juge, il le fait pour notre rédemption. Et dans le psaume 32, nous observons deux sortes de jugements. Comment Dieu juge l'homme et comment l'homme se juge lui-même. Voyons de quelle manière David, par exemple, se décrivait quand il se taisait. En d'autres termes, lorsqu'il ne se jugeait pas et ne confessait pas son péché, eh bien, il est dit au verset 3 du psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée. » Nous voyons dans ce passage que lorsque David ne confessait pas sa faute, son corps physique était affecté. Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul. C'est pour cela, pour avoir participé à la Sainte Cène indignement, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 30. Souvent, Dieu nous juge en nous retirant le sentiment de sa présence. Vivre sans la présence du Seigneur est comme la sécheresse d'un été sans pluie. Il est dit dans le psaume 32, au verset 4, « Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Comment donc regagner la faveur de Dieu? David nous indique ce que nous devons faire. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Verset 5. Dieu a dit en parlant de David, c'est un homme selon mon cœur. Vous pouvez voir cela dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur? Parce que David recherchait le Seigneur. Lorsque le prophète Samuel a dit à Saül que Dieu l'avait rejeté, Saül demanda pardon à Samuel. 1 Samuel, chapitre 15, verset 25. Mais lorsque le prophète Nathan se dressa devant David pour avoir pris la femme d'un autre homme, David ne lui dit pas « Je te demande pardon, Nathan ». Lisez cela dans 2 Samuel, au chapitre 12. Mais au contraire, il a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté ». Psaume 51, verset 3. Souvenez-vous et demandez pardon les uns aux autres. Cela est bien clair que nous devons demander pardon si nous avons fait du mal à un frère ou à une sœur. C'est clair, car même les non-chrétiens savent cela. Mais nous devons surtout jamais oublier de demander pardon à Dieu, et ceci soit par lui directement ou en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. La grande différence entre David et Saül était celle-ci. Saül recherchait le pardon, mais David recherchait celui qui pardonne, c'est pas la même chose. David cherchait Dieu et lui demandait de lui pardonner. Et nous aussi, chers amis, nous devons confesser notre péché au Seigneur. Lorsque nous faisons connaître nos iniquités au Seigneur, la Bible nous dit qu'il enlève le péché. Psaume chapitre 32, verset 5. Je répète, la grande différence entre David et Saül était celle-ci, c'est que Saül recherchait le pardon, mais David recherchait celui, surtout celui qui nous pardonne. David cherchait donc Dieu et lui demandait de lui pardonner. Et nous aussi, nous devons confesser notre péché au Seigneur. Lorsque nous faisons connaître nos iniquités au Seigneur, eh bien, croyez-moi, la Bible nous dit qu'il va enlever notre péché. La Bible déclare pieux ceux qui confessent leur transgression. Et c'est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où on te trouve. Verset 6, toujours du psaume 32. Il est donc dit, vous avez compris, c'est pourquoi tout homme pieux te priera. Et ceci au temps où on te trouve. Voyez de quelle manière la relation entre David et Dieu a changé après qu'il lui ait confessé son péché. Tu es mon asile, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Verset 7. Nous voyons donc ainsi comment Dieu réagit lorsque nous nous repentons. L'apôtre Paul déclare qu'il nous faut porter un jugement sur nous-mêmes avant de prendre part au repas du Seigneur. Comment nous juger? Tout simplement en confessant nos iniquités. Et qu'adviendra-t-il ensuite? Eh bien, notre communion avec le Seigneur sera rétablie. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus-Christ célébra la première sainte cène avec ses disciples, il leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». De quoi devrions-nous nous souvenir en nous approchant de la table du Seigneur? Tout d'abord, toi qui es son enfant, je sais que tu remercies Dieu parce que Jésus-Christ est mort à ta place pour te libérer des conséquences de tes péchés. Mais Jésus-Christ a fait tellement plus pour toi à la croix. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été rejeté et qu'il s'est habitué à la souffrance pour toi comme pour moi. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, est-il écrit dans Ésaïe, au chapitre 53, verset 3. Sur la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés ainsi que leurs conséquences. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, verset 4. Le mot souffrance est le terme hébreu qui a comme signification faible, malade ou affligé. Il est certain qu'il a porté notre faiblesse, il a porté nos maladies et nos afflictions. Le mot hébreu pour douleur est makrob, qui veut dire peine ou souffrance. Les Écritures sont claires. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés et ne les a pas seulement effacés, mais il est aussi mort pour nos maladies. Le Nouveau Testament en témoigne dans saint Matthieu, au chapitre 8, versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus-Christ plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dans Matthieu, on voit qu'il se référait carrément à Ésaïe 53, verset 4, qui parle de Christ puni, frappé, paix de Dieu et même humilié. Ainsi, Jésus-Christ n'est non seulement mort pour effacer nos péchés, mais également pour nous guérir de nos maladies. Le psalmiste parlait vraisemblablement de manière prophétique des bienfaits de la croix en rédigeant le psaume 103, où il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi oublierions-nous ses bienfaits? Je crois que lorsque vous oubliez ce que Dieu a fait pour vous, il souffre. Le psalmiste a dit des enfants d'Israël, et ils recommencèrent et tentèrent Dieu et affligèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa main au jour où il les avait délivrés de l'oppresseur. Psaume, chapitre 78, ou si vous voulez 78, versets 41 et 42, version Darby. Il est important pour Dieu que vous vous souveniez de ce qu'il a fait pour vous. Et c'est la raison pour laquelle nous célébrons le repas du Seigneur, pour se rappeler toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous par la croix de Jésus-Christ. Nous les trouvons dans le psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, est-il dit au verset 3. Tous vos péchés sont lavés, toutes vos iniquités sont pardonnées. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous repentir et de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Verset 3. Je suis si heureux de constater que ce verset ne dise pas qui pardonna et qui guérit au temps passé, mais qui, au contraire, pardonne et qui guérit au temps présent. Il nous pardonne toujours et nous guérit encore. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Verset 4. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. La Bible nous dit que Dieu te couvre de bienfaits. Il ne donne jamais de mauvaises choses, il en donne toujours de bonnes. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Verset 5. Il nous renouvelle lorsque nous connaissons ses bienfaits. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, est-il dit au verset 6. Par sa croix, il nous délivre de l'ennemi. Je voudrais partager avec vous un autre des bienfaits de la croix que le Seigneur m'a fait découvrir. Il y a de nombreuses années de cela, j'ai compris certaines choses. Ce bienfait s'est avéré pour moi une source de bénédiction. Dans Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 8, l'apôtre Paul nous dit une chose merveilleuse à propos de ce que Christ a fait pour nous. Il a fait 7 pas pour descendre de son trône céleste, et ceci jusqu'à la croix. Premièrement, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Verset 6. Deuxièmement, mais il s'est dépouillé lui-même. Verset 7. Nous sommes toujours dans Philippiens au chapitre 2. Troisièmement, en prenant une forme de serviteur. Verset 7. Quatrièmement, en devenant semblable aux hommes, toujours au verset 7. Cinquièmement, et ayant paru comme un simple homme, verset 7. Sixièmement, il s'est humilié lui-même, verset 8. Et septièmement, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 8. Alors que nous lisons Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, Dieu a encore 7 pas pour établir son trône. Premièrement, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, verset 9, toujours de Philippiens chapitre 2. Deuxièmement, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, verset 9. Troisièmement, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Verset 10. Quatrièmement, sur la terre. Verset 10. Cinquièmement, et dans les cieux. Verset 10. Sixièmement, et sous la terre. Verset 10. Et septièmement, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Verset 11. Or, dans le livre des Hébreux, les Écritures saintes déclarent qu'après avoir purgé nos fautes, Christ s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il s'est assis, cela sous-entend un travail achevé. À la droite veut dire une puissance. Jésus a reçu toute autorité et toute puissance. Il a reçu absolument tout. C'est la majesté dans les lieux très hauts. Et cela sous-entend qu'il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce qu'il est sur son trône, la Bible nous dit que nous avons un moyen du sang de Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, par ce moyen-là. Hébreux chapitre 10, verset 19. Christ est descendu du trône à la croix pour nous sauver. Et il est monté de la croix au trône pour devenir notre souverain sacrificateur et de nous permettre ainsi d'entrer dans la présence de Dieu. Je répète, parce qu'il est sur son trône, la Bible nous dit que nous avons, au moyen du sang versé à la croix de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, verset 19. Jésus-Christ est descendu du trône à la croix, et ceci pour nous sauver. Et il est monté de la croix au trône pour devenir notre souverain sacrificateur et pour nous permettre ainsi d'entrer dans la présence de Dieu. Chaque fois que vous prenez la Sainte Cène, rappelez-vous bien que c'est grâce au sang de Jésus-Christ que nous pouvons communier avec Dieu. Et tandis que nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous tous lorsque son corps a été brisé et son sang versé, la présence de Dieu descend sur nous. Je suis témoin que par le sang de Jésus-Christ, l'onction de Dieu vient toujours, pas seulement dans ma vie de prière personnelle, mais tout autant pendant les cultes et au cours des grands rassemblements où se manifeste la puissance miraculeuse de Dieu. Avant de terminer, je dois vous dire qu'avant chaque CD, je remercie toujours Dieu pour le sang de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, et toujours l'onction de Dieu descend et des miracles se produisent. Dans l'ancienne alliance, Dieu répondait par le feu lorsque le sacrifice était offert sur l'autel. Et il en va de même de nos jours, lorsque l'on honore le sang de Jésus-Christ et sa croix, alors l'Esprit-Saint descend et touche la vie des gens. Chers amis, je prie afin que, après avoir ces CD, la présence du Saint-Esprit fasse dorénavant partie intégrante de votre vie et pour que votre amour pour le Seigneur croisse jusqu'au jour glorieux où vous le verrez face à face. Nous allons maintenant terminer par la prière et j'aimerais, avant que nous prions ensemble, vous dire les mots merveilleux d'un ancien cantique. Et ces paroles sont les suivantes. Quel autre ai-je aux cieux? Quel autre en ces lieux que toi, mon sauveur, l'époux de mon âme, l'ami de mon cœur? En toi, Dieu sauveur, chez la paix du cœur, tu as tout fait pour moi, et sur ta justice se fonde ma foi. Je vis donc en paix, parce que je sais que même en la mort, Christ est ma retraite, il est mon appui, il est mon fort. Prions maintenant. Vous pouvez prier après moi, dans votre cœur ou même à haute voix, comme vous voulez. Je vais tâcher de prier lentement pour que vous puissiez prier avec moi. Oui, Seigneur, le pardon se trouve abondamment auprès de toi, afin que tu sois craint. Oui, tu es un Dieu juste et miséricordieux, un Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal et devant lequel les méchants ne sauraient subsister, mais un Dieu qui a trouvé la propitiation pour le péché, qui a livré ton Fils unique à la mort afin de nous racheter de toutes nos détresses et afin que nous puissions donner gloire à la fois à ton amour, à ta sainteté et à ta justice. Nous te rendons grâce de ce que lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous, de ce qu'il a mis son sang entre toi et nos péchés, et de ce que justifié en lui, nous pouvons avoir la paix avec toi, parce que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification, règne sur nous sans partage. Donne gloire à ton nom par la conversion d'un grand nombre de pécheurs jusqu'au jour où tu paraîtras sur les nuées, où tout œil te verra, même ceux qui t'auront percé, et où tu prendras possession avec tes saints rachetés de cette terre que tu t'es acquise au prix de ton sang versé. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui te connaissent, afin qu'ils croissent dans ta grâce et dans ta connaissance, et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que tu te révèles à leur âme. Bénis en particulier tous ceux que nous aimons, et pitié de tous ceux que tu éprouves, et que ta paix soit multipliée à tous tes enfants pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que vous avez un Dieu qui vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour la peine que vous vous donnez pour écouter ces CD. Nous allons commencer une nouvelle série qui sera une série spécifique qui concerne la croix de Christ. Série très intéressante et constructive qui va être une bénédiction pour de nombreuses personnes. À bientôt à nouveau, mes chers amis. Au revoir.